Oui.
Pourquoi vous parlez d'univers visible?
L'univers visible, pas au sens d'opposition visible, invisible, c'est le visible, disons, c'est l'univers tel qu'il est écrit à partir de l'information qui m'arrive maintenant. Parce que si par exemple l'univers était beaucoup plus grand, hein, que 15 milliards d'années-lumière, il y a de la lumière qui serait partie, mais qui ne serait pas encore arrivée aujourd'hui. Donc par exemple, si le Soleil disparaît maintenant, nous avons encore 8 minutes de lumière. Et puis c'est fini. Mais nous ne pourrons pas savoir directement que le Soleil a disparu. Donc, ce qu'on pourrait, pendant 8 minutes, bon, il y a de la lumière qui va arriver, et puis bon, ça va décroître un petit peu, mais en fait, le Soleil est à 8 minutes-lumière de nous, ça veut dire qu'il faut 8 minutes pour que la lumière arrive. Donc, la lumière, la chaleur du Soleil que nous ressentons, c'est une chaleur qui est produite par le Soleil, mais 8 minutes avant. D'accord? Et donc, on pourrait s'imaginer que si l'univers est très très grand, il y a encore de la lumière ou des rayonnements qui sont partis, mais qui ne sont pas encore arrivés. Si par exemple une étoile disparaît dans le ciel, disparaît et elle est à 12 millions d'années-lumière, si elle disparaît aujourd'hui, ce n'est que dans 12 millions d'années que nous le saurons. Hein, il y a des étoiles qui disparaissent dans le ciel, on dit bon tiens, on ne la voit plus, mais en réalité, elle est disparue depuis des millions d'années peut-être. D'accord? C'est dans ce sens-là que je disais visible. Disons l'univers observable. Mais ce n'est pas même un bon terme parce qu'on pourrait dire ce qui est observable potentiellement, justement, enfin, il n'y a pas un bon terme en français pour dire ce qui est potentiellement observable et ce qui est. Oui?
C'est observable à l'instant T.
Oui, voilà, c'est ça. Observable à l'instant T. Voilà. Et donc maintenant, nous ne pouvons recevoir, décrire l'univers que, mettons, qu'un univers qui a 15 milliards d'années-lumière de rayon environ, sans savoir s'il y a autre chose encore plus loin. Voilà. OK? Bon. Alors, tout ça pour dire que, premier aspect, univers très grand, mais la surprise va venir, disons justement, de Hubble. Hubble, en 1920, va non seulement montrer, avec son équipe, que l'univers est probablement plus grand, avec beaucoup plus de galaxies que ce qu'on croyait, mais il va découvrir un phénomène très curieux, c'est que les galaxies, en réalité, ont un mouvement extrêmement ordonné. À savoir, les galaxies s'éloignent de nous dans toutes les directions avec une vitesse proportionnelle à l'éloignement. Donc, au plus les galaxies sont lointaines, au plus leur vitesse de fuite est très grande. Donc, et ça va étonner tout le monde, évidemment. Parce que, en fait, comment se fait-il que toutes ces galaxies aient ce beau mouvement ordonné par rapport à nous? Et ça, c'était un peu paradoxal, puisque depuis Copernic, nous avions abandonné l'idée que la Terre était au centre du monde. Et comment se fait-il que par rapport à la Terre, toutes les galaxies ont un mouvement tout à fait ordonné, le même dans toutes les directions? Dans toutes les directions, la plupart des galaxies lointaines s'éloignent de nous avec une vitesse proportionnelle à l'éloignement. Alors ça, c'est la découverte de Hubble. Alors comment découvre-t-on que les galaxies s'enfuient à grande vitesse, etc.? C'est simplement en observant leur lumière. Et on le détecte par ce qu'on appelle l'effet Doppler, hein, c'est lumineux. Donc c'est quand vous avez, je sais pas, vous entendez une moto ou une ambulance sur le bord d'une route, vous savez que le son est plus aigu quand elle se rapproche de vous et puis elle est plus grave quand ça s'éloigne de vous. Alors plus aigu dans la lumière, c'est plus rouge, plus bleu, pardon, et plus grave dans la lumière, c'est plus rouge. Donc quand un corps lumineux s'éloigne de vous, il émet une lumière qui est beaucoup plus rouge que s'il était au repos. Et ce qu'on découvre dans le spectre des galaxies, c'est que la plupart des galaxies lointaines ont des spectres déplacés vers le rouge, beaucoup plus rouge que ce qu'il faudrait. Parce qu'on sait en réalité ce qu'il y a à l'intérieur des étoiles et des galaxies, donc ça émet à peu près toujours le même spectre lumineux. Et on voit que ce spectre est systématiquement décalé vers le rouge. Donc ça veut dire que la plupart des galaxies s'en vont. Certaines galaxies proches se rapproche de nous, mais c'est un effet de mouvement local. Andromède se rapproche d'ailleurs de nous à 400 mètres secondes, et dans 4 milliards et demi d'années, elle sera sur nous. Elle va s'entremêler avec notre galaxie, mais peu importe, c'est un mouvement local, La plupart ont ce beau mouvement d'éloignement. Comment est-ce possible? Eh bien, personne ne le savait. Personne. Et Einstein lui-même trouvait que c'était incompréhensible, parce que comment expliquer un si beau mouvement bien organisé dans un univers statique? Ça, c'était pas explicable. Et le premier qui va risquer une explication, en 1927, et pourrait-on dire, c'est vraiment là l'origine de la cosmologie actuelle, c'est l'abbé Georges Lemaître. Donc, l'abbé Georges Lemaître, qui est mort en 1966, et dont je parlerai plus spécifiquement ce soir, et c'est lui qui va proposer pour la première fois l'hypothèse suivante. Il va dire, mais ça s'explique très bien dans la relativité générale, parce qu'il y a des solutions de cette fameuse équation d'Einstein dont je vous parlais. Hein, donnez-moi l'énergie matière de l'univers, je vous donnerai sa force, sa forme et son histoire. Eh bien, il y a des solutions de la relativité générale qui correspondent, on pourrait dire, à des formes qui sont comme un ballon qui gonfle en fonction du temps. Donc, une des solutions de la relativité générale correspond à une structure à trois dimensions, sphérique, et qui gonfle en fonction du temps. Et l'abbé Lemaître, qui avait fait le tour des observatoires aux États-Unis et qui avait récolté toute une série de données astronomiques, qui en plus avait étudié la relativité générale, va faire la connexion entre la relativité et les données astronomiques. Et son coup de génie, c'est de dire, ce ne sont pas les galaxies qui bougent. Ce ne sont pas les galaxies qui bougent. Si j'ai des galaxies dans l'univers, je vais les symboliser comme ceci. Donc deux galaxies au pôle et deux galaxies sur l'équateur. Donc ce ne sont pas les galaxies qui bougent, c'est l'univers qui gonfle et qui emmène les galaxies, qui séparent les galaxies entre elles. Donc autrement dit, les galaxies, elles, ne bougent pas par rapport à l'univers. La galaxie qui est au pôle nord reste au pôle nord. La galaxie qui est au pôle sud reste au pôle sud. Mais comme l'univers gonfle, les galaxies s'écartent les unes des autres. Et si je suis, par hasard, dans la galaxie ici au nord, je me mets ici sur la galaxie nord, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois dans toutes les directions les autres galaxies s'éloigner de moi, et en fait, on peut montrer avec une vitesse proportionnelle à l'éloignement. Donc, en fait, je vais voir dans toutes les directions les galaxies s'éloigner de moi, comme si j'étais le centre de l'univers, mais en réalité, ce ne sont pas les galaxies qui bougent, c'est le ballon qui gonfle et qui écarte les galaxies qui sont au repos sur le ballon, si vous voulez. 1927, Lemaître propose ça, il calcule la vitesse des galaxies et il tombe sur la valeur tout à fait que Hubble avait découverte dans ses télescopes. Oui.
Ça veut dire qu'on est sur une extrémité de la sphère?
Non, c'est une mauvaise représentation, parce qu'en fait, la sphère, c'est une sphère à trois dimensions. Donc en fait, ici, c'est une sphère à deux dimensions. Hein. Deux dimensions veut dire qu'il faut deux coordonnées pour fixer un point. Latitude et longitude. D'accord? Mais ça, notre univers est un univers tridimensionnel, spatialement. Hein? Donc, non seulement longueur, largeur, mais il faut trois points pour fixer une coordonnée dans un volume. Donc, en fait, c'est une structure sphérique à trois dimensions. Donc, il faudrait imaginer le cube que j'ai représenté, et ce cube en train de gonfler. Donc, il faudrait imaginer une structure tridimensionnelle qui gonfle, et les points s'écartant les uns des autres. D'accord? Je veux bien, pour ceux qui sont intéressés par ça, leur dessiner après une sphère à trois dimensions. On ne peut pas, Non, parce que pour voir une sphère à trois dimensions, il faudrait être dans un espace à quatre dimensions. Pour voir une orange, il faut être dans un espace à trois dimensions. L'orange est une structure à deux dimensions, la surface. Et je dois être dans un univers à trois dimensions pour voir de l'extérieur une orange. Oui. Bon, maintenant, si l'orange est à trois dimensions, c'est un volume. pour voir un volume, il faut que je sorte dans une quatrième dimension pour voir les trois autres. Et ça, je ne peux pas. Mais je peux montrer à certains qui sont intéressés par ça comment on fait pour voir. Alors on voit ce que c'est. Mais il faut imaginer un volume, si vous voulez, il faut imaginer un volume qui gonfle. D'accord ? Une pièce qui gonfle. Ça, c'est la bonne chose. Et la distance. Allez, imaginons, voilà, on est dans cette pièce-ci, et chacun représente une galaxie. Chacun représente une galaxie. Eh bien, maintenant, je vous demande, allez, on va écarter les murs, etc., et je vous demande alors de vous déplacer en vous écartant proportionnellement. D'accord ? Eh bien, ça, c'est l'image de l'expansion de l'univers. Vous seriez, disons, fixé à la pièce se dilate, et vous vous écartez les uns des autres. Non pas parce que vous bougez, mais c'est la pièce qui bouge, mais en trois dimensions. Donc ça, c'est une mauvaise représentation, parce que ça voudrait dire il y a un extérieur à l'univers, je suis... Non, ça, c'est pas bon. Mais l'idée est là. Donc, de l'espace secret entre les galaxies. Voilà ce qu'il faut dire. Oui ? Sauf si en plus de ce mouvement global, non, tu as raison, sauf si chaque galaxie éventuellement a un mouvement local, pourrait quand même avoir un mouvement local. Alors, à quoi c'est dû ? En fait, à quoi c'est dû ? C'est parce que c'est le, en réalité, il y a le couplage entre un comportement global de l'univers et des comportements locaux qui sont liés aux interactions entre les corps. Donc en fait, pour décrire ça finement, il faudrait dire il y a ce mouvement global, mais il y a aussi des mouvements locaux. Et les mouvements locaux peuvent faire que des amas, dans des amas, des galaxies se rapprochent de nous, etc. Mais c'est vrai, c'est une bonne... il faut tenir compte de ça aussi. Oui.
Est-ce que ça veut dire que donc l'univers, il est fini ou est-ce que c'est...
Alors...